Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
7h sur Europe 1, merci de nous rejoindre.
Ça me met un peu le stress, cette histoire de masque.
Je trouve que ça va faire un peu bizarre aux oreilles avec le fil, ben j'ai pas l'habitude.
Les vacances ne sont pas terminées, qu'ils y pensent déjà. Comment imposer le masque toute la journée à des enfants de primaire dès le CP? La mesure sera appliquée à partir de lundi. C'est la condition pour que les écoles restent ouvertes.
Mais les écoles restent ouvertes comme les EHPAD, reconfinement aménagé, donc cette fois-ci. Mais dans les entreprises, comme au printemps, le télétravail doit devenir la règle.
4000 militaires supplémentaires. L'opération Sentinelle est renforcée après l'attentat de Nice qui a fait 3 morts jeudi matin.
Et puis les rugbymen français peuvent-ils créer l'exploit ce soir? Ils ont encore une chance de remporter le tournoi destination.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un geste qu'il va falloir faire entrer dans le quotidien de nos enfants à partir de lundi. Avant de partir à l'école, il faudra prendre son cartable et ne pas oublier son masque.
La mesure a été annoncée par le chef de l'État mercredi dernier. Les écoles peuvent rester ouvertes, mais avec ce masque, donc obligatoire pour les enfants dès l'école primaire. On parle d'enfants qui ont à peine 6 ans. La mesure n'est donc pas simple à appliquer. Virginie Salmen.
Élève de 7 ans en CE2 à Paris, Neil ne vit pas très bien cette annonce du masque obligatoire.
Moi, en cette période, ça me met un peu le stress, cette histoire de masque. Puis en plus, ça veut dire que si on porte le masque, bah peut-être que le virus, bah, il s'aggrave un peu plus.
C'est plutôt le confort qui pose problème pour Alix en CE1 dans une école de Saint-André-les-Lilles dans le Nord.
Moi, je trouve que ça va faire un peu bizarre. C'est aux oreilles avec le fil, ben j'ai pas l'habitude.
Les médecins ont-ils changé d'avis sur le masque à l'école pour les enfants? Réponse du professeur Robert Cohen, infectiologue et pédiatre.
On n'a pas changé d'avis. Ce qui a changé, c'est la situation épidémiologique. Quand on a une faible circulation virale, leur faire porter un masque nous paraissait absolument contre-productif. Mais à un niveau de circulation élevé du virus, on a dit depuis le départ, comme l'OMS, que en cas de forte circulation virale, le port du masque pouvait s'envisager à partir de l'âge de 6 ans.
Et cette forte circulation virale, on y est avec au moins 100 000 contaminations par jour, selon le conseil scientifique.
Virginie Salmen, les écoles donc restent ouvertes avec un protocole renforcé. Les EHPAD également. Contrairement au printemps dernier, les autorités ont décidé de maintenir ce lien entre les résidents et leurs familles. Et malgré les contraintes sanitaires, tout le monde est soulagé. Reportage à Saint-Saulve, près de Valenciennes, de Lionel Gougelot.
Pour rendre visite à son épouse très dépendante, Jean a dû prendre rendez-vous. Rencontre limitée dans le temps, masque obligatoire et gel hydroalcoolique à portée de main.
Je ne voudrais pas être celui qui va introduire le virus dans la maison.
Et dans son tête-à-tête, le couple se retrouve séparé par une grande table. Distanciation oblige.
Bon, il y a le contact visuel, mais il manque le contact de se tenir la main. Ça manque, ça. C'est sûr que c'est mieux que rien, parce qu'on n'a eu rien pendant 2 mois.
Maintenir le lien famille-résidence est désormais une priorité autant que possible, et c'est bon pour le moral de Paulette, 82 ans, qui continue de voir régulièrement son fils.
Ah, c'est très important la famille, c'est sûr. Même si c'est très peu de temps, ça fait chaud au cœur, disons.
Marilyn Fenet, cadre de santé de l'EHPAD.
Pour la motivation, pour la stimulation, pour le lien familial, le lien social, on a tous cette demande de ne pas être seul, de pouvoir voir les nôtres. C'est humain.
Ne plus prendre le risque non plus que les pensionnaires isolés se sentent abandonnés. Sylvie Soyer, médecin coordonnatrice.
On a vu pendant la première phase du confinement des personnes âgées qui perdaient beaucoup de poids. Le fait de rester isolé, ça diminue le moral et ça diminue du coup l'envie de manger. Et la dénutrition, c'est dangereux pour les patients.
Et tant que le virus épargnera l'établissement, les visites seront maintenues pour la santé morale et physique des résidents. À Saint-Saulve, Lionel Gougelot, Europe 1.
Hier encore, près de 50 000 nouveaux cas détectés. Près de 3 400 patients sont actuellement hospitalisés dans les services de réanimation.
Et c'est pour freiner les contaminations et les arrivées aux urgences que ce nouveau confinement s'applique. Le télétravail n'est plus une option, selon le gouvernement, qui veut lui-même donner l'exemple, Aurélie Herbemont.
Depuis le premier confinement, les conseils des ministres n'ont jamais retrouvé leur cours normal. Pas plus de 6 ou 7 ministres physiquement présents autour du président, tous les autres en visioconférence. Le fonctionnement ne sera donc pas bouleversé. On a pris l'habitude, glisse l'un d'eux. Toutes les réunions interministérielles à plus de 6, elles, se feront à distance, malgré la lassitude de certains ministres qui confient ne plus en pouvoir des réunions Zoom. Des ministres qui ont reçu la consigne de Matignon, les déplacements officiels devront être limités. uniquement consacrée à la gestion de crise et après autorisation du cabinet du Premier ministre. Objectif, permettre aux préfectures et autres services locaux de l'État de se concentrer sur la crise sanitaire et pas sur des visites gouvernementales. Quant au cabinet ministériel, ils vont revenir au mode de fonctionnement du printemps. Au moins 50% des effectifs en télétravail. On retourne en mars, se glisse un conseiller. On sera peu nombreux au bureau. La seule différence, c'est qu'on porte des masques.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Les commerces non essentiels ont reçu l'ordre de fermer, mais déjà certains font de la résistance et plusieurs maires ont pris des arrêtés pour leur permettre de rester ouverts.
Et on verra ce qu'en pense Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie. Elle est mon invitée tout à l'heure à 8h15. 7h05 à Nice, le confinement n'a pas empêché les hommages. Depuis hier, les habitants se pressent vers la basilique Notre-Dame.
Pour y déposer des fleurs, des messages, s'y recueillir quelques instants. Jeudi matin, c'est ici qu'un terroriste a assassiné 3 personnes, 2 femmes fidèles de la paroisse et le sacristain de l'église. Parmi les Niçois venus se recueillir, de nombreux musulmans écœurés. Écoutez le recteur de la mosquée de Nice, Boubekeur Bekri.
Le culte musulman doit affirmer avec force que notre solidarité, elle est là. Et nous prônons l'unité. D'abord, nous souffrons par rapport aux victimes qui ont été massacrées ici. Nous souffrons parce que ça nous vient d'on ne sait où. Notre communauté musulmane ici sur Nice vit dans la tranquillité. Il y a des relations interreligieuses paisibles. Les communautés entre elles s'entendent. Je pense qu'on a pris ça pour de la faiblesse et on est venu nous attaquer. Ceux qui nous attaquent, ils se trompent sur les musulmans. Les musulmans sont fidèles à leur pays, à leur nation. Et puis, il y a une répétition. Et Nice, nous commençons à dire, il y en a marre. Il faut absolument que les musulmans prennent la parole. Nous serons forts pour combattre cette peur et le terrorisme ne passera pas. Parce que c'est une flamme qu'il y a en nous maintenant, un réveil, un sursaut. Et nous devons l'affirmer, tous.
Boubekeur Bekri, recteur d'une mosquée à Nice, au micro de Frédéric Michel.
Et dans 40 minutes à présent, le président de l'association Life for Nice, Jean-Claude Dubler, sera avec nous.
Le terroriste, lui, a été blessé. Il est toujours soigné à l'hôpital avant de pouvoir être entendu par les enquêteurs. On sait aujourd'hui qu'il s'agit d'un Tunisien de 21 ans, arrivé par l'Italie, par l'île de Lampedusa. À Nice, 2 personnes qui auraient été en contact avec lui ont été interpellées.
Le gouvernement a décidé de placer le plan Vigipirate au niveau urgence attentat et des mesures de sécurité ont été annoncées.
À l'issue d'un conseil de défense convoqué à l'Élysée, Aude-le-Roi, la force Sentinelle notamment va passer de 3 000 à 7 000 hommes.
Oui, et 7 000 militaires Sentinelles, eh bien, c'est l'échelon renforcé du dispositif. C'est d'ailleurs la première fois depuis 2017 que Sentinelles remonte à ce nombre. Ce sont donc 4 000 hommes et femmes qui sont appelés en renfort. Leur déploiement total sera effectif en milieu de semaine prochaine. Ces soldats sont tous issus de l'armée de terre, ils étaient en alerte. Et parmi eux, on compte environ 10% de réservistes. Certains militaires ont commencé à être déployés. Par exemple, hier, il y avait 3 sections par zone de défense et une supplémentaire à Nice. Et ça continue tout ce week-end. Ces soldats sont prioritairement mobilisés dans les régions où ils effectueront leur mission, des patrouilles mobiles et rapides pour sécuriser notamment un maximum de lieux de culte et d'établissements scolaires. C'était prévu à mentionner l'état-major, mais pas avec ce nombre-là de soldats. Dernière précision, en plein confinement, évidemment, le port du masque, les distanciations et les gestes barrières sont de rigueur pour les sentinelles.
Les précisions d'Aude-le-Roi pour Europe 1. À l'étranger, le séisme qui a secoué la région d'Izmir en Turquie a fait au moins 26 morts. Les secours ce matin ont repris leur recherche pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Ce tremblement de terre s'est produit en mer Égée. Il a touché également l'île grecque de Samos.
En Côte d'Ivoire, c'est une présidentielle sous très très haute tension qui va se dérouler aujourd'hui.
7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, mais on redoute une très forte abstention. L'opposition appelle au boycott et on sait que des milliers d'Ivoiriens ont déjà quitté Abidjan par peur des affrontements. Correspondance de François Hume.
Depuis une semaine à Abidjan, les rues se vident à la nuit tombée, les restaurants n'ont plus de clients et les ambianceurs s'absentent des boîtes de nuit habituellement pleines à craquer. En raison d'une crise politique profonde, la peur s'est installée partout dans le pays. L'opposition est vent debout contre la décision d'Alassane Ouattara, le président sortant, de bréguer un troisième mandat qu'elle juge inconstitutionnel. Les 2 concurrents du chef de l'État, Henri Conan-Bédier et Pascal Affine-Guessant, ont appelé leurs militants respectifs à la désobéissance civile afin d'empêcher la tenue du scrutin. En réponse, le gouvernement a déployé 35 000 policiers et militaires pour sécuriser les quelques 10 000 lieux de vote. Dernier rebondissement d'une campagne présidentielle mouvementée, l'intervention surprise 48 heures avant le scrutin de Laurent Gbagbo, l'ancien président de la République emprisonné pendant 8 ans à la Cour pénale internationale avant d'être acquitté l'année dernière, ne s'était plus exprimé à la télévision depuis près de 10 ans. Il a tenu Alassane Ouattara responsable de la crise actuelle et a prévenu « Ce qui nous attend, c'est la catastrophe ». En 2010, la crise électorale avait provoqué la mort de plus de 3000 personnes. À Abidjan, François Hume, Europe 1.
Et puis aux États-Unis, J-4 avant la présidentielle, Joe Biden et Donald Trump poursuivent leur tournée. Ils sont respectivement dans le Michigan et en Pennsylvanie.
Ce soir, il faudra que toutes les planètes soient alignées. C'est loin d'être fait pour le 15 de France, mais il leur reste une petite chance de remporter le tournoi des Six Nations.
Une petite chance, mais on va s'y accrocher. Les Bleus du rugby affrontent l'Irlande. C'est le tout dernier match du tournoi, commencé en printemps dernier et puis suspendu en raison de la pandémie. Les Français veulent y croire, Axel May.
Quand ils fouleront la pelouse du Stade de France, dans le silence du huis clos, les Bleus n'auront qu'un objectif, gagner face à l'Irlande et avec un score large. Car auparavant, l'Angleterre aura, sauf énorme surprise, remporté aisément son match contre l'Italie et pris provisoirement la tête du tournoi. Alors quand on demande au sélectionneur Fabien Galthié et au manager Raphaël Ibanez quel discours ils tiennent aux joueurs, ils se livrent à un numéro de duettiste.
Le message aux joueurs est simple, nous avons autant de chances de gagner le tournoi que l'Irlande et l'Angleterre.
C'est assez simple. Mais nous aimons la simplicité. Et Raphaël a été très explicite sur notre objectif. Ensuite, si je vais un peu plus loin, l'enjeu que nous devons relever aussi, nous devons être réguliers.
La régularité dans les résultats. Avec, pour la première fois depuis 10 ans, la possibilité de remporter le tournoi des Six Nations, l'international Thomas Ramos.
Forcément, dans un coin de la tête, on y pense tous. Mais après, voilà, on garde notre enthousiasme, notre joie de vivre et on ne prend pas la tête plus que ça.
Les Bleus le savent, il ne faut pas s'enflammer après la belle victoire en match de préparation contre le Pays de Galles samedi dernier, au risque sinon, comme le résume l'ouvreur Romain Tamac, de vite redescendre de 15 étages.
France-Irlande, ce sera ce soir à 21h05 au Stade de France.
Avec le reconfinement, bien sûr, on ne va pas forcément beaucoup se servir de nos voitures. Elles sont bien garées pour la plupart des autos qui vous ont coûté un peu plus cher cette année.
Un peu plus cher à faire réparer. 6% d'augmentation des tarifs en moyenne depuis le début de l'année. Les précisions d'Aurélien Fleureau.
L'augmentation des prix a surtout été sensible au troisième trimestre, une fois les stocks bien diminués après les fermetures d'usines liées au confinement du printemps dernier. Les professionnels du secteur ont donc été confrontés à un début de pénurie sur les pièces de rechange et sur les pneus. C'est le constat fait par Christophe Rollet, directeur général du groupe Point S, qui voit une autre raison liée à la crise sanitaire, la baisse des déplacements.
Dans des périodes de confinement, où effectivement il y a moins de sinistralité, donc certains réparateurs peuvent être aussi enclins à augmenter un tant soit peu pour compenser le manque à gagner.
Et puis il y a des raisons plus structurelles à ces augmentations, explique Christophe Rollet, par exemple l'arrivée de plus en plus de technologies dans nos voitures.
Vous remplaciez un pare-brise il y a 10 ou 15 ans, ça coûtait la colle, la main-d'œuvre, le pare-brise et c'était tout. À aujourd'hui, il faut des outils parce que les pare-brises ont des caméras embarquées, que ce soit parfois le pare-brise avant, souvent le pare-brise arrière, mais également de la formation des équipes. Donc tout cela a un coût.
Une tendance qui risque de durer, notamment en raison de l'évolution des achats de voitures, plus de SUV, de berlines et donc des pièces plus coûteuses à réparer.
Explication d'Aurélien Fleureau.
Et en parlant de voitures, ce samedi, vous serez nombreux à rentrer chez vous après ces vacances de la Toussaint. On vous le rappelle, vous avez jusqu'à demain pour regagner votre lieu de confinement. On fait le point sur vos conditions de circulation.
Le radioguidage sur Europe 1 avec les opticiens Atoll pour être sûr de bien voir aussi la nuit au volant.
La journée est classée verte par Bison Futé. Pour l'instant, pas de difficultés majeures excepté des ralentissements sur l'A36 vers Mulhouse. Attention également si vous circulez sur l'A7 en arrivant de Lyon au niveau d'Avignon. Un accident implique 2 véhicules qui sont sur la bande d'arrêt d'urgence. Soyez prudents. Mais sinon, trafic fluide donc partout en France, y compris en région parisienne où ça roule très bien.
Merci de ces précisions, Marguerite Lefebvre, qu'on retrouve pour Journal de 8h.